France Culture.
À voix nue, une série de Sylvie Goudbaron avec Marc Held. Bonjour Marc Held. On va parler cette fois de votre projet qui est maintenant réalisé. L'école a été ouverte en octobre 2024. C'est l'école du centre de la Terre à Samba Dia. Peut-être pouvez-vous préciser où se situe cette école géographiquement afin qu'on s'y retrouve nous aussi. Et ensuite, on parlera du projet.
Oui, Samba Dia est un petit village qui se trouve à environ 3 heures de voiture au sud de Dakar. C'est un petit village majoritairement peuplé d'une ethnie, les Bambara, qui viennent du Mali. Il n'est pas au bord de l'eau, comme les villages où je résidais habituellement. Et il vit, au fond, de l'agriculture, de l'argent qu'envoient les expatriés. Et ils sont d'une certaine façon coupés du monde. Et dans ce village, il y avait un grand besoin d'école, et en particulier d'école maternelle. Et c'est la raison pour laquelle, voilà, je me suis impliqué depuis des années pour trouver l'argent, le concevoir avec une équipe de jeunes architectes qui m'accompagnent depuis le début.
Ce qui est joli dans cette histoire, c'est que finalement, le projet que vous avez conçu nous renvoie également à votre jeunesse. Puisque vous le dites à votre interlocutrice, puisque le livre qui est paru chez Norma et qui raconte l'histoire de Samba Dia est un livre écrit sous forme de correspondance. Vous évoquez le fait que cette histoire remonte à très loin et vous évoquez un peintre qui s'appelait Iba Ndiaye, par exemple. Et on retrouve votre jeunesse et votre ami Georges Leroy.
Oui, absolument. Donc moi, mon premier contact avec le Sénégal, c'est mon ami d'enfance, c'est devenu mon beau-frère, Iba Ndiaye, dont j'ai parlé, peintre. Donc c'est une relation très ancienne que j'ai réactivée en étant accueilli dans la famille d'Iba par Anne-Catherine et Latir Senghor, chez lesquels j'habite lorsque je réside là-bas.
Alors, Cette école doit beaucoup. Comment c'est venu cette histoire d'école? Vous l'avez dit, donc vous allez sur le terrain, il n'y a pas d'école, il y a besoin d'une école. Et là, comme toujours, vous êtes à la fois quelqu'un qui concevait solitairement, mais tout de suite, ça devient une équipe. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes encore sur l'île grecque, à Skopelos, et là, vous faites venir une petite bande qui va concevoir avec vous cette école. Vous pouvez nous raconter ça?
Oui, alors, effectivement, un groupe de jeunes architectes que j'avais rencontrés lors d'un workshop, comme on dit, un atelier au Liban consacré à l'architecture de terre, invité par Fadlo Daguerre et Gilles Perraudin. Je parle de mon projet d'école parce que j'avais trouvé qu'on devrait faire quelque chose pour ce village. Et ces jeunes se sont naturellement regroupés autour de moi en disant « on y va, on te soutient, on travaille avec toi ». Et donc on est allé travailler sur le sujet en Grèce, 2 semaines distinctes. Nous consacrons d'abord à une étude de la pédagogie active consacrée aux tout petits enfants. On a fait un gros travail de réflexion sur les méthodes pédagogiques, comment les traduire dans le bâti. Une étude sur le Sénégal et cette région, sa géographie, son environnement. Et ensuite, une quinzaine de jours, tous ensemble, collectivement, vraiment en tribu, au Sénégal même, où on a fait le premier concept de cette école. Et ensuite, une fois que ce concept a été réalisé, il fallait trouver l'argent pour le faire et les appuis. Alors on a trouvé auprès du gouvernement sénégalais un appui très solide. Ils nous ont alloué un terrain et ils nous ont promis le personnel pédagogique. Il faut préciser que c'est une école publique laïque, ce qui pour moi est très important. Et alors j'ai mis beaucoup plus longtemps à trouver de l'argent qu'à travailler sur le projet avec notre équipe. Enfin, on est arrivé à nos fins et on a transformé ce qui était un avant-projet sommaire en un projet détaillé. J'ai passé 3 mois d'études avec 2 stagiaires à m'adapter au réel, ce que les artisans de la région savent faire ou pourraient faire, tirer le meilleur parti de leur savoir. Et donc j'ai un peu refondu le projet sur le plan constructif. Et j'ai donc produit un projet final, et on s'est lancé avec les artisans du pays, à quelques kilomètres de là, un menuisier, serrurier, les maçons, tout le monde habite au bord de la piste, dans les champs, et on a fait avec, encore une fois, avec mes stagiaires et tous ces artisans, on a réussi à construire cette école exemplaire. Avec un principe sur lequel je veux revenir. On trouve en Afrique, au Sénégal en particulier, puisque là j'y réside, je connais bien les lieux, on trouve beaucoup d'initiatives de construction, de dispensaires, écoles. En général, les gens réunissent de l'argent et on construit, disons-le, très souvent, pas toujours heureusement, un abri avec des parpaings de ciment, un toit en tôle, on met les gosses à l'abri, plus ou moins à l'abri du soleil, parce que ce sont des fours. Avec toute ma petite équipe, on s'est interrogé en disant, admettons qu'on ramasse, on avait une idée du budget, 100 000 euros, peut-être 150 000 euros, qu'est-ce qu'on fait? Alors on pourrait faire trois hangars. Je suis un peu méchant, mais c'est un peu vrai. Trois hangars, ou bien alors on fait autre chose. On fait vraiment de l'architecture, et une architecture dédiée vraiment à l'éducation des tout-petits-enfants. On monte le niveau. Et là encore, j'avais inventé une sorte d'aphorisme qui est le suivant. C'est, construire une école pauvre parce que les enfants qui vont l'utiliser sont des enfants pauvres, ce serait comme de fournir des médicaments périmés à des nécessiteux. On a pris le parti contraire. On ferait la plus belle école qu'on pourrait faire d'ailleurs. Télérama a quand même dit notre école la plus belle école du monde. Ils ont sans doute exagéré, mais c'est quand même, c'était notre but. Et on l'a fait. Et on l'a fait.
Chose admirable qu'on entend bien dans votre voix et dans votre œuvre, et que je trouve personnellement très admirable, c'est que vous rendez hommage, vous rendez à César ce qui lui appartient, et vous aimez à citer ceux qui vous ont inspiré. C'est assez rare, finalement, que les personnes s'entourent et rendent hommage à ceux et celles qui ont permis que les choses adviennent. Et dans ce projet, comme dans d'autres, vous rendez hommage à Hassan Fathi. Vous pouvez nous dire un petit peu qui il était, ce qu'il a représenté pour vous ?
Hassan Fathi est devenu, pour maintenant, des jeunes architectes d'aujourd'hui, après un long, long silence, 80 ans au moins, est devenu une sorte de modèle. Hassan Fathi, architecte égyptien, a consacré un livre à une expérience architecturale. Il a construit à Gourna, dans la vallée des Reines ou des Rois, je ne sais plus, un ensemble, un petit village, à partir avec les moyens du bord, c'est-à-dire la terre, les artisans, en réactualisant des techniques ancestrales, dont la voûte nubienne, etc., le rafraîchissement naturel par la circulation d'air, etc. Et il a intitulé son livre « Construire avec le peuple ». C'est devenu ça, alors pour le coup, c'est vraiment devenu ma Bible. Et je crois que ce livre, j'en ai souligné, j'ai souligné la moitié des phrases de ce livre. Ça m'a beaucoup inspiré. La chance a voulu que dans les années 70, je rencontre Hassan Fathi lors d'une semaine formidable de vie commune en Corse, invité par un ami musicien et peintre, Tony Casalonga, et j'ai côtoyé Hassan Fathi en tout petit comité pendant cette semaine, et ça, je crois que ça a contribué à ce que je privilégie dans ma pratique, une architecture bioclimatique, naturelle, humble, à l'encontre même de l'architecture du spectacle. Car malheureusement, c'est un peu ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Vous savez, les gens du Bauhaus avaient ce slogan, c'est « Form follows function ». Moi, je trouve qu'aujourd'hui, ce que je regarde, toutes ces gesticulations pour faire des projets qui intriguent, font se frissonner la bourgeoisie cultivée, pour moi, c'est devenu « Form insults function ». Tout le contraire de ce qu'Hassan Fathi a préconisé, de ce que j'ai essayé de continuer.
Vous dites aussi que l'Afrique, pour vous, c'est l'énergie, et que vous aimez particulièrement cette hospitalité qui vous a été faite. que vous trouvez rarement, peut-être, dans d'autres pays, continents que vous avez pu traverser.
Je le dis souvent lorsque j'ai eu l'occasion de m'exprimer par écrit ou de vive voix, que il y a une énergie formidable parce qu'il y a beaucoup d'enfants, qu'il n'y a pas les barrages que l'on connaît chez nous. Il y a une liberté formidable, mais surtout ce que nous avons vécu, l'équipe et moi, c'est une forme de relation que nous ne connaissons plus. Dans les villages du Sin Saloum, une maison est habitée par des musulmans, la maison voisine sont des chrétiens, on distingue la maison des chrétiens parce qu'il y a un cochon devant, et tout le monde s'invite, on va aux fêtes réciproques, on s'aime, il y a même des mariages entre des gens de religions différentes. Alors je trouve que on leur a donné une école, comme on dit, mais eux, ils nous ont donné beaucoup plus que ça. Ils nous ont donné ce qui a été perdu chez nous, la fraternité, l'acceptation des autres, quelle que soit leur couleur, leur religion, leur culture. On est tous rentrés confortés, en tous les cas, parce que c'est ce que je pensais depuis très très longtemps, c'est que la distinction entre les gens, les communautés que l'on méprise, que l'on accuse de tous les maux, sont des maux, on nous intoxique. Moi, j'ai l'exemple au Sénégal d'une société pacifiée. Alors, on a reçu plus que nous avons donné.
Comme à votre habitude, cette école, elle est conçue de A à Z, le bâti, mais aussi les matériaux et le mobilier. Et je crois que vous êtes particulièrement fière des chaises qui ont été récemment produites et qui ne comportent aucune vis.
Non, nous sommes donnés comme objectif en concevant le mobilier de se passer autant que faire se peut de techniques avancées, parce qu'ils n'en ont pas, ils n'ont pas de machines, ils ont leurs mains et le matériau. Et donc, dès le concept, on a, encore une fois, évité la sophistication de la construction. Non, ce qui est formidable dans l'expérience du mobilier, c'est que, d'abord, c'est un mobilier en bois et pas en plastique. Ah, c'est la moindre des choses. Et il est réalisé par l'ébéniste du coin, hein, il est au bord de la route. Là, il a un petit toit en tôle à l'extérieur, une petite machine, quelques ouvriers. Et je passe devant son lieu de travail et je vois une grande chaise, pas confortable, mal foutue, mais je sens que ce type, il aime le bois. Il aime le bois. C'est tout en courbe. Il a l'amour du matériau et ça, c'est formidable. Alors je vais le voir. Je connaissais pas. Il n'était pas là depuis longtemps. Et je l'avais pas remarqué, donc. Et je lui parle, et il parle français, plutôt bien. Et je lui dis, est-ce que tu ferais des chaises? Il dit, bien sûr, je ferais des chaises. Alors, je dessine très, très vite, en tenant compte de son savoir-faire et de sa sensibilité. Une première chaise, j'apporte une chaise en plastique parce que ses proportions sont bonnes, et qu'on va repartir des proportions de cette chaise pour enfants. Et alors, mes confrères architectes ou designers vont tomber raides. Je fais le dessin de soir. Le lendemain, j'ai un proto. J'ai déjà travaillé à Paris, un mois pour avoir un prototype. Ça coûte une fortune. Il faut aller en dehors de la ville. Non, rien. Le lendemain, j'en ai un. Ah, je vais avec lui. Alors, on prend du papier de verre. On en bouffe un peu. Le soir, j'en viens. Il m'a refait un deuxième prototype. Et comme ça, pendant une semaine, un prototype par jour. Écoutez, notre organisation avec toutes ces contraintes, ces transports, ces trucs, tout ça, ça rime à rien. La production de masse par les usines, je sais pas, pour sortir une lampe, j'ai des CW qui produit une de mes lampes, c'est une des premières que j'ai dessinées il y a 60 ans. Je veux dire, ça a mis un an pour être au point. Et pourtant, ils sont formidablement dynamiques. Il y a tellement de freins. Eh ben voilà. Small is beautiful. Et j'ai une autre fois, c'est que les derniers seront les premiers. Revenir à l'artisanat, j'ai déjà dit. Mécaniser si possible pour éviter le labeur. Mais vraiment incomparable. Donc, on a fait fabriquer à Tin, c'est son nom, en copain, en ami, j'y passe trois fois par jour. Je vois si ça marche, si c'est fidèle au modèle initial. Et on a fait 90 chaises en quelques semaines. On a fait des rangements, on a fait des tables. Le piétement de table a été fait par mon serrurier Kébé, qui est aussi un gars du coin. On l'a mis au point ensemble. Formidable. Vive le retour au fait main.
Cette école, c'est évidemment le lieu de la transmission. T comme transmettre. Pour vous, c'est très important. C'est important peut-être à deux égards. La transmission, le faire des enfants des citoyens émancipés. Vous dites que cette école est laïque, bien entendu, avant tout. Mais c'est aussi transmettre autour de vous, pour les adultes, le fait de construire, de bâtir. Et là, on retrouve un élément très important de votre conception de la construction, c'est-à-dire donner les moyens à tout un chacun de faire de son habitation quelque chose qui lui est propre. C'est pour ça, tout à l'heure, j'évoquais le visage, les maisons, la singularité.
Le succès de l'école, d'abord, parce que les enfants, ils sont merveilleusement bien, les maîtresses aussi, dans des lieux comme ils n'en ont pas, même chez eux, c'est une chose. Mais je crois que ça a une autre vertu. C'est que les gens du village qui ont adopté l'école, l'école, c'est devenu vraiment un lieu de sociabilité. On y passe, pas seulement pour étudier. L'après-midi, les gens viennent, les gosses de l'école primaire traverse notre école pour rentrer chez eux. Ils s'y abritent à l'ombre. C'est un lieu de sociabilité. Ils y font des fêtes. Mais on leur a prouvé que leur technique traditionnelle, à la condition d'être vue à la lumière du savoir-faire, mon associé de fait, Angèle Kaiser-Wani, une architecte d'origine libanaise qui a fait une spécialisation à Crater, nous a apporté son savoir et sa connaissance technique et scientifique de la Terre.
Pardon, Crater, vous pouvez expliquer, c'est à Grenoble.
Crater, c'est un département de l'école d'architecture de Grenoble qui s'est spécialisé il y a une trentaine d'années dans l'étude des moyens de construction à terre. Ils ont un laboratoire, ils ont des machines, on y fait de la physique, de la chimie, du travail manuel, et ils forment des gens, un nombre limité de gens, dont Angèle. Et Angèle nous a apporté son savoir. Et donc, à la lumière du savoir-faire issu de la science et de la technologie, on réhabilite des techniques de construction qui avaient été méprisées parce que c'était celle des pauvres, comme toujours dans les sociétés pauvres. J'ai vécu ça en Grèce. En fait, les gens qui passent du statut de pauvre au statut de la petite bourgeoisie, qui s'enrichissent un tout petit peu, méprisent l'habitat de leurs ancêtres. Il est la représentation d'une société pauvre et méprisée. Et donc, notre école, lorsqu'on a commencé de construire des murs de 4,50 m de haut, sans béton, sans ferraille, avec de la terre, les gens disent « mais ça va tenir, ça va tenir ». Eh ben oui, ça tient. Et ils viennent le photographier, pour ceux qui ont des téléphones, ils ont tous des téléphones aujourd'hui, ils viennent le photographier, et j'ai bon espoir que ça devienne une sorte de modèle et que les gens se remettent eux-mêmes à construire leur propre habitat, un habitat confortable, sain, au fond, en revenant à leur propre tradition. Nous avons été des sortes de médiums.
Voilà. Alors, vous êtes un homme de réseau, de relations. C'est vous aussi qui vous occupez de trouver l'argent qui est nécessaire à toute construction de cet ordre et d'une ampleur. C'est une vraie nécessité. Vous êtes un homme de raison. On peut voir d'ailleurs sur votre page Facebook les photos que vous faites encore de ces femmes, de ces maîtresses, de ces enfants, de ces ouvriers qui travaillent à vos côtés, de ces jeunes qui vous entourent. Et vous êtes là-bas considéré un peu comme un mage, un roi, etc. Mais votre humilité fait que vous ne voulez pas lire un poème de Yonel Shine, un architecte qui a écrit pour vous il y a quelques années pour vous présenter un poème magnifique qui est vous, à travers ses yeux, son esprit. Vous ne le lirez pas puisque vous vous refusez, vous êtes trop modeste pour cela et vous ne voulez pas être mis en avant. Mais peut-être pourriez-vous nous dire, et ce serait une forme de conclusion, ce qui vous fait plaisir, c'est ce que vous disait votre ami Ciné, qui, pour parler de son œuvre et par humilité, disait...
Je vais vous choquer, mais au fond, il avait trouvé pour titre à son autobiographie, au fond, un titre qui conviendrait bien à la mienne, c'est... Alors ne soyez pas choqués. Ma vie, mon œuvre, mon cul.
Markel, Est-ce que dans cette école, vous retrouvez des principes qui vous sont chers, qui pourraient être des principes d'une urbanisation ? Alors, c'est une école, ce n'est pas une ville. Enfin, une école, c'est aussi une ville en petit modèle. Est-ce que vous y retrouvez, vous y concevez des choses qui vous semblent importantes dans la ville telle que l'homme libre que vous êtes, homme libre toujours, tu chériras, etc. Est-ce que vous...
Je vous arrête pour vous dire, je ne suis pas un homme libre, je suis un homme qui cherche sa liberté.
Mais d'accord, vous la cherchez encore aujourd'hui ?
Oh, plus que jamais.
Alors, est-ce qu'il y a dans cette école tout ce que vous concevez dans une ville, c'est-à-dire à contrario de ces villes voulues au XIXe siècle par des Haussmann, etc. Donc des villes où l'homme n'est plus en possibilité de se réfugier, de se cacher. C'est aussi très politique tout ça, non ?
Oui, c'est politique dans le sens où la police grecque, la cité, s'occupait de la ville, la cité. Non, c'est un des principes qui nous guide dans le plan de masse, dans l'organisation de l'espace général d'une école, où vous se retrouvez ensemble, 150 enfants, c'est d'éviter, je crois que je l'ai dit plus tôt, mais la promiscuité. On sait, on connaît les méfaits d'une densité de population excessive. Ça a été très largement documenté par des chercheurs que lorsqu'une densité de population dépasse un certain seuil, d'ailleurs relativement bas, naissent des comportements agressifs, dépressifs. Et donc, dans ce pays en pleine expansion démographique, il y a plein de gosses partout. Et c'est vrai que leur donner la possibilité d'être dans un groupe restreint, d'avoir leur individualité, c'est très, très important. C'est la raison pour laquelle on a conçu un bâtiment qui n'est pas un bâtiment central dans lequel se retrouvent les trois classes, c'est la classe des, et là, le bâtiment des enseignants, mais faire éclater ça par petites unités, chacune ayant son indépendance, son préau, sa salle, son terrain de jeu, de telle façon qu'on n'ait pas cette espèce de surpopulation. Donc, c'est très, très important. L'autre, c'est que le plan, tout en étant rigoureux, dessiné, pour ceux qui savent lire un plan, c'est un plan très construit, mais il est fait de mystères. Il est fait de découverte du lieu. On ne peut pas appréhender l'espace d'un seul coup d'œil. J'ai écrit un article que sur un sujet que je nomme la déambulation. Ces villes aux rues rectilignes, où tout est décidé d'avance dans l'architecture stalinienne, nazi, fasciste, ou celle de Corbusier, le grand artiste qu'il était, l'horrible théoricien qu'il était, considérer les hommes comme des hommes-machines et on leur construit des maisons-machines. C'est horrible. Ces bâtiments tout transparents, au fond, annoncent que la population qui va y vivre doit être, elle aussi, transparente. Donc le mystère, on se cache, on se dissimule. Tout le contraire de la ville telle que l'a construite Haussmann, faisant détruire les quartiers populaires pour que circule la police, les gendarmes à cheval, etc. Non, non, moi j'aime la ville mystérieuse, la déambulation, le mystère, la découverte. Se balader à Venise, à pied, dans des rues étroites, on débouche sur une petite place, on respire. C'est tellement complexe que jamais le cerveau ne pourra réellement mémoriser le plan de la ville. C'est-à-dire que lorsqu'on se balade dans ces conditions-là, voilà que tout à coup, la perception même de la durée et des distances est complètement changée. Dans une distance petite mais mystérieuse, on voyage beaucoup plus que dans une rue droite, par exemple.
Tout ce que vous venez de dénoncer, là, Marc Held, me fait vraiment penser au fait que vous ressemblez à Walter Benjamin, peut-être êtes-vous...
Je suis juif.
Et Walter Benjamin, pourquoi ? Probablement parce que, on le sait, il avait une collection de jouets d'enfants, et puis surtout, et ça vous ressemble bien, il faudrait que vous fassiez des conférences radiophoniques pour les enfants sur l'architecture, sur l'émancipation, sur la liberté, parce que Walter Benjamin a fait des conférences extraordinaires à Berlin pour les enfants, des conférences radiophoniques qu'on peut retrouver, bien entendu, qui ont été publiées et qu'on peut entendre. Voilà. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui vous distingue peut-être... d'autres qui n'ont pas ce souci de transmettre avec cette joie qui est la vôtre. Que pourrions-nous ajouter à cette école que vous n'auriez pas dit Qu'est-ce qui manque aujourd'hui à cette école ?
Oui. Alors, c'est très, très important. Vous avez tous compris que, pour moi, l'école, c'est pas seulement un projet d'architecture. C'est mon bébé, comme chacun de mes projets, mais plus encore que les autres. C'est mon bébé. Alors, je m'en occupe de la premier trait de crayon jusqu'à l'entretien, apprendre aux gens à passer la chaux, etc. Il faut savoir que personne au Sénégal ne croyait que nous construirions l'école, et même la construire, surtout la construire aussi vite, on l'a fait en 200 jours. Et donc, il n'y avait pas de budget pour le matériel de cette école. Et donc, les maîtresses, qui sont des héroïnes, vraiment des femmes formidables, formidables, ont créé de leurs propres mains le matériel pédagogique. Elles ont dessiné des objets. Sur les photos qui ont été publiées, les films qui ont été faits, on voit ça. Elles ont tout fait de leurs propres mains. Mais c'est vrai que si on peut aider en fournissant du matériel pédagogique, ce serait formidable. Elles le méritent, et les gosses surtout le méritent.
On entend le rythme de votre voix. On a commencé cette série d'émissions en chantant. Vous avez chanté pour nous au début de cet entretien. S'il fallait finir en musique, Marc Held, ce serait quoi ? Je crois que j'ai une petite idée.
Alors, vous savez que j'aime beaucoup l'opéra, les lieder, mais j'ai une meilleure idée. En hommage à cette merveilleuse famille de paysans de la Corrèze qui nous ont abrités, qui est devenue ma famille de cœur, je vais vous chanter une chanson en patois. Je suis un des seuls qui possède encore la langue, un des tout derniers. Alors, je vais vous la dire en français d'abord. Quand les filles sont matures, un peu devant les fêtes tombées, ainsi feront les jeunes drôles, les filles, quand elles se voudront marier. Et donc, en patois. Quand la pera chouma dura, un pau de vin la faille tomba, et tarfan la zanadran la, quand je voudrai marida.
Eh bien, à la prochaine série que nous ferons ensemble dans 15 ans, cher Marc Held, peut-être finirons-nous avec Lazarus de Schubert. Je crois que vous aimez beaucoup également ce drame.
Je la réserve pour mon enterrement.
Voilà, merci infiniment, Marc Held. C'était À Voix Nue, une série proposée par Sylvie Goudbaron, réalisation Thomas Duter, prise de son Laurent César, chargée de programme Daphné Abgral. Une série disponible sur franceculture.fr et sur l'application Radio France.